les jardinières.
Bonjour tout le monde et bonjour à vous Sarah.
Bonjour Stéphanie, bien sûr, bonjour et bienvenue à notre invité Philippe Détra, horticulteur à Neuchâtel.
Et bonjour.
Décidément, cet été nous offre toutes les conditions météorologiques imaginables. Grosse chaleur, forte pluie, chute des températures. Pas forcément évident pour nos jardins, nos plantes, nos arbres, arbustes et nos potagers de garder une bonne mine. C'est pour ça qu'on est là. Enfin, plutôt que Philippe Détra est là. C'est un professionnel, lui, et il pourra répondre à toutes vos interrogations en direct. Toutes vos questions seront traitées comme il se doit.
Nous sommes ensemble jusqu'à 8h pour vous offrir des conseils personnalisés. Et ces conseils, vous pouvez les demander via le formulaire internet qui se trouve sur nos sites. Ou alors, vous pouvez simplement prendre votre téléphone et nous envoyer un SMS. Vous tapez le mot « jardin » suivi d'un espace, puis votre question. Et vous envoyez le tout au 939. Et sinon, vous pouvez directement nous appeler au 0901 70 20 20 pour 36 centimes. La minute jusqu'à 8h. Vous pourrez ainsi discuter de vos problèmes de jardin directement avec Philippe Détra, notre professionnel.
Tout se dit, on prend bloc-notes et chapeau. C'est parti pour les jardinières jusqu'à 8h.
Les jardinières.
Comme Sarah l'a expliqué, vous pouvez nous poser vos questions durant l'émission. Vous pouvez également le faire à n'importe quel moment de la semaine. Dès qu'une question vous vient en tête, en vous baladant dans votre jardin ou en admirant vos magnifiques plantes d'intérieur, c'est ce qu'a fait Joël grâce à notre formulaire internet.
Joël, il a un mûrier qui a l'air d'être sec et n'a pas encore donné beaucoup de fruits et il se demande si c'est dû au manque d'eau.
Alors, très probablement, mais j'aimerais juste amener une petite précision au sujet des mûriers. Ce qu'on appelle les mûriers chez nous sont probablement des ronces, donc des plantes qui piquent, et dont on apprécie les murs. Le vrai mûrier, lui, est un arbre qu'on trouve comme arbre d'avenue, et qui est sélectionné en général pour ne pas faire des fruits, mais ça donne des murs aussi, elles sont parfaitement délicieuses. Maintenant, si la plante est sèche, très probablement que c'est dû à un manque d'eau durant cet été.
Et moi j'ai une question un peu similaire, j'en profite, dans mon jardin j'ai un damassinier, ça fait déjà 5 ans qu'il est là, mais j'ai toujours pas de fruits, rien du tout. Est-ce que c'est dû aussi au manque d'eau? Qu'est-ce que ça peut être?
Alors le manque de fruits, non, probablement que c'est une histoire de taille. Est-ce que ce damassinier a été taillé?
Oui, chaque année.
Chaque année, par un professionnel?
Oui, je crois. Ouais, moi, je ne m'en suis pas trop occupée.
Ok. Non, parce que les gens qui ont pas vraiment de notion de taille ont tendance à tailler un petit peu les fruitiers comme les buis. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se taille. Et si la plante a été mal taillée ou trop taillée, par exemple, eh bien, elle va faire que des branches. Donc, c'est vraiment... Il vaut mieux s'adresser à un professionnel, mais je ne peux pas vous dire exactement pourquoi il ne donne pas de fruits.
D'accord, merci.
Et j'aimerais revenir sur les mûriers, justement, parce qu'en fait, c'est vrai qu'en forêt, je me balade assez souvent. Il y a beaucoup de mûriers cette année qu'on voit justement en pleine nature. Est-ce qu'ils sont pareils que les mûriers qu'on a dans les jardins?
Oui. En fait, c'est ce qu'on appelle des ronces. Enfin, selon
c'est
les régions.
C'est ça que vous appelez des ronces, en fait.
Ouais, okay. Selon les régions où on habite. Effectivement, ben, ouais, les mûriers, il n'y a pas tellement de variétés. Il y a une variété, en principe, qui est Théodore Reimes Schauferer, qui est la variété piquante. Et qui est souvent considérée comme la meilleure variété. On trouve aussi des ronces qui ne sont pas piquantes, mais moi je trouve que c'est un manque de piquant.
Et justement, en fait, on est vraiment dans la saison là. On est bien d'accord. C'est la saison.
On est dans la saison où ça donne, ouais. Ouais, tout à fait. Mais vous pouvez les récolter sans risque.
Merci beaucoup Philippe Détra. On a Sandrine de Glovelier qui aimerait tailler son pommier parce qu'elle nous dit qu'il a bien poussé au printemps. Alors est-ce qu'elle peut le faire déjà maintenant?
Alors, ça peut surprendre les personnes qui ne s'y connaissent pas en arboriculture, mais la taille en verre peut se faire effectivement durant l'été, mais c'est pas une taille comme ce qu'on appelle la taille en sec, c'est-à-dire qui se fait lorsqu'il n'y a pas de feuillage. En fin d'hiver, on peut tailler les fruitiers en général avant que les plantes bourgeonnent, et puis ça se fait de manière souvent un peu drastique. Là, il vaudrait mieux aussi demander à un professionnel de le le faire. La taille en verre, c'est pas une taille. Elle va juste éviter d'avoir un gros buisson bien touffu. C'est ce qu'on appelle aussi un éborgnage. Donc ça se fait de manière un peu douce pour enlever les branches en excès.
Et puis justement, c'est valable pour tous les arbres fruitiers, on est bien d'accord.
N'étant pas arboriculteur, je ne vais pas dire oui, mais probablement.
D'accord, donc tailler les arbres à cette saison, c'est faisable. C'est
vrai ça se fait.
Voilà.
Nous avons Damien de la Neuville qui se demande s'il faut tenir compte du type de terre présent dans son jardin pour l'arroser. On lui a dit que son sol avait plutôt une forte teneur en calcaire. Donc, est-ce qu'il doit tenir compte de ça pour arroser sa terre ?
Moi, je dirais non, bien que ce soit un peu complexe. Je pense qu'il vaudrait mieux arroser lorsque les plantes en ont besoin. Je crois que c'est la... la logique, la plus logique, quoi. Des choses. Après, c'est vrai, le calcaire, l'argile, l'humus, le compost qu'on va mettre dans le sol va avoir un effet sur la structure du sol. Mais il faut arroser lorsque les plantes en ont besoin, ont besoin d'eau.
D'accord, merci beaucoup Philippe Détra.
C'est un petit peu une réponse de Normand, mais...
Ouais, c'est assez complexe hein, quand même comme question, c'est sûr que c'est...
Oui, puis si vous avez plus de précisions à ajouter ou plein d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire au 939, vous tapez le mot jardin, vous laissez un espace et là vous posez votre question ou tout simplement vous pouvez nous appeler au 0901 70 20 20 si vous voulez nous ajouter des précisions et bien sûr d'autres questions.
Comme Sylvie de Sonsbeau qui se demande si après avoir fait pousser des épinards dans son potager, elle peut planter des carottes ou si elle doit attendre que la terre se régénère, Philippe.
Alors, épinards et carottes ne font pas partie de la même famille, donc en principe oui, mais il y a tout plein d'ouvrages qui parlent de ces cultures qui se suivent ou qui s'associent. De tête, je n'arrive pas à vous dire si c'est jouable entre carottes et épinards, mais en principe oui. Maintenant, il suffit de taper sur Google les cultures associées ou rotation de culture et on trouve très très rapidement les choses que l'on peut faire ou que l'on ne peut pas faire. Ceci s'explique parce que certaines plantes ont des grands besoins de nourriture et il vaut mieux éviter d'avoir des plantes qui ont des grands besoins, éviter de les mettre l'une après l'autre, puisque le sol sera un petit peu épuisé. Et puis on évite aussi les plantes de la même famille afin d'éviter d'avoir une fidélité des parasites.
C'est aussi un petit peu pour ça que dans les jardins potagers, on voit des séparations, c'est-à-dire entre les différentes plantations. Tout n'est pas finalement ensemble.
Pas toujours, parce qu'on voit aussi, pour ceux qui font de la permaculture ou des choses comme ça, pas mal de cultures qui sont associées, qui sont groupées ensemble et qui ne sont pas forcément séparées. Donc tout ça, c'est vraiment, je dirais, là aussi c'est complexe. Il vaudrait mieux s'intéresser, ouvrir un livre et puis potasser un moment, quoi. Mais c'est vrai que c'est une prise de tête au départ.
Ouais, donc le jardin potager, effectivement, quand même bien étudié avant de faire n'importe quoi, et puis pour avoir des beaux légumes et des bonnes cultures. On va faire une petite pause musicale, mais avant, on va rappeler à tous ceux qui nous écoutent qu'on a des questions de jardinage sur les arbres, sur les plantes vertes, sur tout ce qui se passe en ce moment. Si vous avez des questions arrosage, eh bien vous posez votre question à Philippe Détra qui est avec nous jusqu'à 8h. Sarah, comment est-ce qu'on peut faire ?
C'est très simple. Vous prenez votre téléphone, vous écrivez le mot « jardin », vous laissez un espace et vous envoyez le tout au 939. Et encore plus simple, vous composez juste le 0901 70 20 20. Et pour 36 centimes la minute, vous pouvez poser votre question avec nous en direct.
7h, 8h, les jardinières.
Maintenant que vous êtes réveillés, n'hésitez pas à prendre votre téléphone et à nous envoyer un SMS au 939. Les jardinières sont là jusqu'à 8h pour répondre à toutes vos questions de jardinage. Vous tapez le mot « jardin » suivi d'un espace et là, vous laissez libre cours à votre question. Vous pouvez aussi choisir de nous appeler. C'est ce qu'a choisi Christine de Danvant. Elle est avec nous pour poser sa question à Philippe Détra, horticulteur à Neuchâtel. Bonjour Christine.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors écoutez, moi j'aurais aimé savoir s'il y avait une solution, parce que tout cet été j'ai eu vraiment beaucoup de problèmes, une grande levée d'herbe dans mes framboisiers. Et puis, à force de l'arracher, voilà. Alors, j'aurais voulu savoir s'il y avait la possibilité éventuellement de mettre de la paille au pied des framboisiers.
Alors, c'est tout à fait possible. La paille, elle va faire ce qu'on appelle un paillage, mais ça ne va pas supprimer vos mauvaises herbes. Donc, idéalement, il faudrait enlever les mauvaises herbes avant de mettre de la paille. Et cette paille aura un effet...
Oui, alors c'est ce que j'ai fait maintenant.
C'est ce que ça fait, ok. Tant que vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Et cette paille va garder le sol, va garder une certaine humidité au sol, et aussi éviter, mais pas supprimer, l'apparition des mauvaises herbes.
Moi, j'avais un peu souci que ça fasse un peu, ouais, quand il pleut, que ça fasse vite trop fumier ou comme ça, non ?
Non, parce que ça se fait aussi, justement, un mot à la mode en ce moment, c'est la permaculture, ça se fait beaucoup avec la paille. Moi, j'éviterais de mettre des copeaux, parce que les copeaux, ils vont se dégrader et puis amener des champignons. C'est clair que la paille va aussi un petit peu se dégrader, mais de manière plus douce, donc c'est pas mauvais, c'est même bon.
D'accord.
Quelle épaisseur de paille Christine doit mettre ? Combien il faut en mettre ?
Ça dépend. Non, mais il faut en mettre, moi je le fais pas, hein, parce que j'ai des cultures campo, mais une dizaine de centimètres de paille, donc ça fait quand même une bonne quantité de paille. Enfin, ça dépend de la longueur des framboisiers.
Oui, la plate-bande. J'ai trois plates blanches d'une à côté de l'autre qui font à peu près 4 mètres.
Ouais.
4 mètres de long.
Ouais, mais.
Alors je mets bien au milieu, sur les pieds.
Non, mais au pied, mais autour des pieds.
Autour des pieds.
Ouais. D'accord. Si vous voulez éviter un petit peu.
Et puis c'est mieux de mettre de la paille normale, ou bien alors nous, on a aussi, comme on est agriculteur, on a aussi de la paille hachée.
Alors, vois pas la différence.
La paille, elle est plus longue, et puis la paille hachée, c'est ce qu'on met dans les logettes, c'est de la paille qui est coupée à 3-4 cm.
Ouais, alors de la paille non hachée, à mon avis. On voit des fragments qui ont quand même 15-20 cm.
Alors je mets de la paille normale. Oui, d'accord.
Ouais, parce que plus ces morceaux de paille seront petits, plus vite ils se dégraderont. Hein.
Voilà, oui, ça, j'ai bien pensé, oui. D'accord, je vous remercie beaucoup.
Merci d'avoir vous, Christine.
Bonne journée, au revoir.
Pareillement.
Au revoir, bonne journée. Si vous aussi, comme Christine, vous avez envie de poser une question, eh bien vous appelez le 0 901 70 20 20, ou alors vous envoyez un SMS comme Maddy de La Chaux-de-Fonds vient de le faire. Elle demande à Philippe si c'est normal que ses plants de tomates soient toujours verts, enfin que ses tomates sur son plant soient toujours vertes. Est-ce que selon vous, Philippe, c'est normal ? Est-ce que ça peut venir plus tard ? Ou est-ce qu'il y a un problème avec les tomates de Maddy ?
Alors, où est-ce qu'elle se trouve déjà ?
À La Chaux-de-Fonds.
À La Chaux-de-Fonds, ok. Ouais, c'est pas forcément le climat idéal, hein. Non, pour les tomates. Mais ça marche. Et maintenant, ça dépend beaucoup de l'endroit où elle se trouve, à La Chaux-de-Fonds. J'espère qu'elle les a mis contre un mur, une situation chaude. Et puis, probablement qu'il faut attendre un petit peu, parce que, évidemment, le Chaux-de-Fonds, c'est 1000 mètres. C'est donc, la culture des tomates va être un petit peu retardée. Maintenant, pour le choix des variétés qui devraient être plantées en altitude, il vaudrait mieux choisir des variétés qui sont hâtives, donc qui donnent plus rapidement que les tardives. Certaines personnes pensent qu'il vaudrait mieux mettre des tardives en altitude, mais là, ça risque de donner justement trop tard. Donc, privilégier des variétés hâtives, et puis un peu de patience, je pense.
Oui, soyez patiente, Maddy. C'est vrai que quand on habite peut-être en altitude, c'est toujours un petit peu plus compliqué pour tout ce qui est légumes et fruits. Mais ce n'est pas perdu, en tout cas. Merci beaucoup, Philippe Détra. Je rappelle que vous êtes avec nous jusqu'à 8 heures et que vous qui nous écoutez, vous pouvez poser vos questions jardin à Philippe. Sarah, d'ailleurs, c'est vous qui allez nous rappeler toutes les manières de faire pour nous poser une question.
Alors, par appel, c'est au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous nous appelez et on discute directement avec Philippe Détra, qui est notre horticulteur à Neuchâtel. Et si vous préférez faire par SMS, parce que vous êtes un peu timide, pas de problème. C'est au 939, vous tapez le mot « jardin », vous laissez un espace et vous envoyez le tout avec votre question.
Et puis on va faire une petite pause musicale, un petit point sur la météo et sur la route et on se retrouve tout à l'heure.
7h, 8h, les jardinières. Les jardinières.
Les jardinières sont de retour. On se réjouit de répondre à vos questions jardinage. Enfin, heureusement que nous sommes accompagnés de Philippe Détrat, horticulteur à Neuchâtel. Il s'est levé tôt, rien que pour vous et aussi un petit peu pour nous.
Philippe est là pour répondre à toutes les questions, alors n'hésitez pas. Toutes celles que vous vous posez au sujet de votre jardin, de vos plantes d'intérieur ou même de vos arbres fruitiers, vous pouvez les poser par téléphone jusqu'à 8h en composant le 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute, ou alors vous pouvez nous envoyer un SMS en tapant le mot jardin suivi d'un espace et puis de votre question et vous envoyez tout ça au 939.
Philippe, muni de votre tablette flambant neuve, vous avez trouvé des petites précisions sur les épinards et les carottes, question que nous avions eue tout à l'heure. On vous laisse nous donner vos petits détails.
Oui, alors j'ai potassé un petit coup pendant la musique. Donc les épinards sont des légumes gourmands en azote principalement. Et c'est de la famille des chénopodiacées. Et on peut parfaitement les faire suivre d'un semis de carottes. Parce que les carottes, c'est une autre famille, la famille des apiacées. C'est un légume racine et tous les légumes racines vont profondément dans le sol. Et ce sont des légumes qui sont peu gourmands. Donc faire suivre une culture gourmande par une peu gourmande, c'est parfait.
Ah, moi en tout cas je suis bien gourmande, hein. Je sais pas les légumes mais moi oui, et nous avons reçu un SMS, on va plutôt parler jardinage que ma gourmandise, qui nous dit: que faut-il faire contre les hannetons dans le jardin?
Les hannetons, avec un Z?
Oui. Les hannetons.
Non mais ça se dit maintenant. Ça se dit.
Comme il y a un H, les hannetons.
Alors, les hannetons adultes, en fait, sont pas vraiment nocifs. Ce sont leurs larves qui sont nocives. Maintenant, faut faire très attention. Parce que les hannetons, ils ont des cycles de vie. Il y a plusieurs variétés de hannetons qui ont des cycles de vie de 1 année, 2 ans ou 3 ans, entre autres. Et puis, on peut confondre la larve du hanneton avec la larve de la cétoine. Et en fait, la cétoine est protégée, mais pas le hanneton. Donc, si vous retournez votre sol, si vous grattez votre sol, vous tombez sur des grosses larves bien dégueux, eh bien, ça peut être soit du hanneton, soit de la cétoine. Et là, honnêtement, j'ai un tout petit doute, je ne sais plus, celle qui a un gros cul. Il y en a une des deux qui a un gros cul. Vous trouvez ça sur Internet, sans problème, ou alors je me renseigne encore dans les minutes qui suivent. Mais le mieux, c'est de supprimer ces larves, sauf si c'est de la cétoine. Maintenant, dans le sol d'un jardin, on va trouver plutôt du hanneton et la cétoine dans le compost. Donc ça, c'est déjà une bonne façon, un indice de les différencier. Et donc la cétoine est protégée.
Et comment on fait pour détruire ces larves de hanneton? Parce que c'est vrai que c'est un peu dégueu comme ça.
Vrai, c'est vrai que c'est pas encore autorisé dans l'alimentation.
Oui, mais c'est vrai qu'effectivement, on pourrait développer un commerce.
Voilà. Grillé à la poêle, peut-être que c'est pas mal, mais non, là je suis pas. Moi je les écrase, quoi. Ou bien on les laisse simplement au sol et puis les oiseaux s'en occupent.
Eh ben oui, un petit repas pour les oiseaux, au moins comme ça tout le monde est content, n'est-ce pas? Les SMS, oui Sarah, on a reçu un SMS, qu'est-ce qu'il dit?
Zouk nous demande: peut-on manger les courges qui ont poussé spontanément? Merci.
A priori oui. Non, il ne faudrait pas confondre avec les coloquintes. Les coloquintes sont des cucurbitacées aussi, mais qui sont toxiques. En général, les coloquintes sont extrêmement dures. Ce sont ce qu'on utilise pas mal en décoration dans les magasins de fleurs, par exemple, bien qu'on utilise aussi les courges. Voilà, normalement, oui, il n'y a pas de souci. S'il n'y a pas eu de coloquintes dans les environs, il n'y a pas de risque d'hybridation courge et coloquintes.
Et si c'est une coloquinte, on risque quoi, juste pour nous faire peur, comme ça?
Je sais pas, j'ai jamais essayé, mais je pense que non, il vaut mieux pas essayer, j'en sais rien.
C'est vrai que pour les décorations, par contre, c'est très très joli hein, en automne, ouais. Mais ouais. Donc
non, toujours être un peu prudent. C'est un petit peu comme se demander si je traverse la route sans regarder, quoi.
Mais c'est vrai que c'est bien d'être prudent. Voilà, tout à fait. Une autre question de Catherine de Moutier qui nous demande si le marc de café est un bon engrais, si c'est vrai, et surtout comment il faut s'en servir, si c'est le cas.
Alors, c'est effectivement un bon engrais qui est assez riche en potasse, en magnésium et en azote. Donc, on peut l'utiliser soit en l'épandant sur le sol, et puis ensuite il va descendre gentiment dans le sol ou en l'enfouissant. Ça, c'est tout à fait possible. Maintenant, le marc de café est un engrais organique, comme le serait le fumier, la paille, l'humus ou toutes les petites bêtes en décomposition. Et l'engrais organique n'est pas utilisable immédiatement par les plantes. Mais par contre, c'est beaucoup mieux. L'engrais organique, par exemple en bio, on n'utilise que de l'engrais organique. Mais ensuite, il faut que cet engrais soit transformé par les petites bêtes microscopiques du sol pour être consommable par la plante.
Ça voilà, prend combien de temps pour être transformé ?
Oh, impossible de vous dire, ça dépend du sol, de la vie du sol, de la saison aussi, de plein de choses. Et puis encore un petit truc sur le marc de café, c'est un répulsif, par exemple, contre les fourmis ou contre différents insectes.
Ah, très intéressant ça. Donc on prend simplement son marc de café, voilà, on utilise vraiment celui qui sort de la machine à café, on est bien d'accord,
il n'y a pas de choses,
on ne l'achète pas dans le commerce, c'est vraiment quelque chose qu'on prend directement. Et quel autre café
Elle a envie d'un café.
C'est ça, en fait, c'est l'heure. Quel autre engrais biologique comme ça vous pourriez conseiller, Philippe ?
Alors, bon, déjà, les composts, mais les composts mûrs, hein, pas trop frais. Et puis, on trouve dans les commerces on trouve beaucoup plus d'engrais chimiques dans les commerces que d'engrais organiques. Mais c'est, voilà, quand vous trouvez le terme organique, c'est que vous pouvez en principe y aller. Auparavant, on utilisait de la poudre de sang, du sang de bœuf ou des machins comme ça. Enfin, il y en a pas mal qui sont interdits maintenant. Dû principalement à la crise de la vache folle.
Oui, effectivement. Et les cendres, est-ce que c'est aussi un engrais ? Les cendres du feu ?
Les cendres, bon, alors il faudrait éviter d'en mettre dans le compost. Moi, j'en mets un petit peu parce que j'ai un grand compost et puis pas beaucoup de cendres. Mais les cendres possèdent aussi des éléments nutritifs, mais j'ai juste un petit blanc. Ouais. Mais je peux regarder.
Eh bien. Vous allez nous trouver la réponse et puis nous la donner pour un petit peu plus tard. On va rappeler, bien sûr, Sarah, comment est-ce que les auditeurs peuvent faire pour nous envoyer une question ce matin, une question à Philippe Détra qui est avec nous jusqu'à 8h, encore un petit quart d'heure pour poser toutes les interrogations jardinage. Sarah, comment est-ce qu'on fait ?
Vous pouvez le faire par SMS au 939 en tapant le mot « jardin ». Vous laissez un espace et là, vous posez votre question. Vous pouvez aussi nous appeler, profitez-en. Vous avez un professionnel rien que pour vous. C'est au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute.
Eh bien, on va laisser Philippe d'être un peu potassé sur les cendres et on va faire une petite pause musicale. À tout de suite.
Les jardinières.
Mirna de Neuchâtel a profité de la pause musicale pour nous appeler au 0901 70 20 20. Vous pouvez aussi le faire, c'est pour 36 centimes la minute. Mirna de Neuchâtel, bonjour.
Bonjour Mirna.
Oui, bonjour.
Bonjour,
bonjour Monsieur Détra. J'aurais une petite question concernant les tomates.
Oui.
J'ai différentes sortes de tomates, différentes variétés. Elles sont belles et malheureusement, quand elles mûrissent, elles attrapent le fond noir. Alors, de quoi ça vient ? Puis, voilà, on me dit qu'elles sont stressées, mais pourquoi ?
Alors, il y a effectivement un phénomène de stress, mais qui est en relation entre le sol, donc le sol probablement calcaire, et l'eau. Et c'est ce qu'on appelle le cul noir. Certaines variétés sont beaucoup plus sensibles que ça, à ce problème qui arrive assez fréquemment, comme la San Marzano, par exemple. Donc il faudrait privilégier, si possible, des variétés qui sont pas sensibles à ça.
Mais, oui.
Ouais, c'est un problème d'arrosage entre le. C'est un problème de dissolution du calcaire et d'arrosage. Donc, est-ce que votre sol est très calcaire?
Oui, mais là, on les a mis en pot. Ah. Alors, y a de la terre, il y a du terreau. On a mis même des orties au fond. Ouais. Voilà, on a essayé, on a papayé, mais voilà. Ouais, alors.
Si c'est en pot, en principe, vous avez utilisé une terre qui est bonne pour ça, qui est bonne pour. Vous avez probablement acheté de la terre adaptée à une culture de légumes.
Oui, tout à fait.
Et ces plantes, est-ce qu'elles ont souffert de la soif?
Alors, en principe, on est parti 5 jours, notre fille est venue arroser. Mais autrement, mon mari se charge de les arroser gentiment tous les soirs, voilà, au pied. Alors, je ne vois pas tellement pourquoi. Souvent, on arrose même avec de l'eau de pluie.
Ouais. OK.
Voilà. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est une question aussi d'un trop fort arrosage ou bien pas assez?
Alors, les tomates ont un grand besoin d'eau. Donc, en principe, il faut les arroser. Ah. Si on est en été, c'est qu'il y a du soleil. Et s'il y a du soleil, on arrose tous les jours. Plutôt le soir ou le matin très tôt.
D'accord. Bon, on va essayer. L'altitude
l'altitude, je crois pas. Mais changer de variété, peut-être, ou demander des variétés qui sont résistantes au cul noir.
D'accord. Alors, on essayera ça. Je vous remercie beaucoup.
Merci, Myrna.
Bonne journée. Au revoir. Merci.
Merci, Myrna, d'avoir appelé. Et vous aussi, vous pouvez le faire au 0901 70 20 20. Vous avez encore quelques minutes. Vous pouvez aussi envoyer un SMS au 939 en notant le mot jardin, un espace et votre question. Comme l'a fait cet auditeur qui nous demande l'Edelweiss, une fleur bien robuste en montagne. Mais comment la faire survivre chez soi? Est-ce qu'il faut la mettre dedans, dehors? Est-ce qu'il faut l'arroser? Alors, est-ce que c'est possible déjà d'avoir des Edelweiss, Philippe?
Oui, alors c'est une plante vivace. Maintenant, il ne faut pas oublier que l'Edelweiss, elle vit en altitude. Normalement, donc, si vous voulez cultiver de l'Edelweiss en plaine, il va falloir un peu truquer l'endroit. Donc, il faut se rendre compte que cette Edelweiss, elle n'a pas de grands besoins de nourriture. Donc, si vous la mettez dans dans une terre à géranium, par exemple, eh bien, elle va beaucoup trop pousser. Elle ne va pas mourir, pas de souci, mais elle va venir trop grande, trop grise et pas jolie. Donc, il faut vraiment. Elle a besoin d'énormément de lumière, mais en pleine, elle aura sûrement trop chaud. Donc, il faudrait un peu truquer, essayer de lui trouver un endroit un peu frais, avec beaucoup de lumière. Et pas d'engrais, et surtout pas d'engrais.
Surtout pas d'engrais, effectivement. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est très, très délicat. En tout cas, c'est déjà rare d'en voir en montagne.
Ouais, c'est vrai. On peut aller dans les bons coins.
Ouais, en plus. Sarah, on a reçu un autre SMS. Ah, Sarah est au téléphone. Je pense qu'il y a quelqu'un en ligne. En attendant, Philippe, on va revenir sur cette histoire de cendre. Qu'est-ce que vous en dites? On a parlé de cendre comme engrais et vous avez potassé sur la question. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé?
Oui, alors juste avant les cendres, le cul noir de la tomate, c'est une carence en calcium, en principe.
Carence en calcium, oui, et c'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent. On l'avait déjà eu la semaine dernière, cette histoire de cul noir. Voilà. Alors voilà, c'est vrai que donc on a un petit peu une explication.
Alors, si je reviens sur le calcium, c'est parce que la cendre est riche en chaux et en potasse. Donc, on peut mettre des cendres dans son jardin, mais il ne faut pas exagérer. Il faudrait, si possible, ne pas en mettre plus que 80 grammes par an et par mètre carré. Donc, il faut avoir un petit peu... voilà, il faut les peser. Oui. Et puis surtout, faire attention à ce qu'on utilise comme cendre, parce que si vous brûlez du bois qui a été traité, qui a eu de la peinture, qui a eu des cochonneries, d'ailleurs, c'est interdit, hein, de les brûler, il faudrait les mettre en déchetterie. Eh bien, alors après, je ne sais pas ce qu'ils en font, hein. Mais il faudrait éviter d'avoir du bois sale. Et puis à ce niveau-là, après, si c'est du bois propre, il n'y a pas de souci, vous pouvez en mettre dans le jardin. Mais attention aux excès de potasse et aux excès de chaux.
Philippe Détra, nous avons reçu un appel de Yvonne de Courfèvre qui a une question pour vous. Bonjour Yvonne.
Bonjour madame.
Bonjour.
Bonjour monsieur.
Merci.
Je peux vous soumettre mon problème?
Allez-y.
Oui, alors depuis bien des années, je plante des pommes de terre avec succès dans mon jardin. Et puis, voilà, 3 ans maintenant, depuis 3 ans, elles se font attaquer par... On me l'a dit que c'était des courtilières parce qu'elles sont rangées, donc.
Ouais.
Et puis, on m'a dit, ça doit être des courtilières, mais je ne sais pas comment m'en débarrasser.
Ok. Puis, et vous les avez vues, ces petites bêtes? Enfin, ces grosses bêtes?
Alors, justement, je ne les ai jamais vues. Est-ce que c'est vraiment des courtilières? Sinon, je ne sais pas ce que ça pourrait être, alors. Je ne saurais même pas comment ça...
Donc là, alors là, c'est simple, hein, vous allez sur Google ou sur un autre moteur de recherche.
Je n'ai pas ce truc-là.
C'est assez d'aigle comme bestiole, ça fait quelques centimètres de long, dans les 5-6 centimètres environ. Vous imaginez un scarabée un peu plat, allongé, et puis qui est très gourmand. Donc vous le verrez probablement pas parce qu'ils sont dans le sol. Donc on appelle ça aussi des grillons taupes. Voilà, parce que c'est une tranche de grillon, mais qui vit dans le sol, d'où l'association grillon-taupe. Voilà.
Mais c'est... Est-ce qu'ils font aussi le même bruit que les taupes? Elles chantent comme les taupes?
Je ne sais pas.
C'est intéressant parce que j'ai entendu des grillons qui... Le chant du grillon dans mon jardin.
Ok, alors ça je ne peux pas vous dire, je ne crois pas. Par contre, ça se ramasse manuellement. Hein. On trouve effectivement des produits chimiques pour lutter contre les courtilières, mais moi je trouve que ce n'est pas très cool de mettre ça dans un potager.
Oui, j'aimerais pas.
Donc ça se ramasse, voilà, donc il faut grailler le sol un peu.
Il faut essayer de les trouver.
Voilà.
Merci d'avoir appelé en tout cas ce matin, c'était très sympa.
Monsieur.
C'est déjà l'heure de nous quitter, bientôt. Et puis le journal va arriver. Philippe Détrat, merci pour tous vos précieux conseils que vous avez procurés à nos auditeurs. Merci Sarah de m'avoir accompagnée. Et les questions, bien sûr, vous pouvez les poser tout au long de la semaine.
Merci à vous Stéphanie. Oui, vous pouvez les poser via formulaire internet sur notre site ou par SMS au 939. Vous tapez le mot jardin suivi d'un espace et vous posez votre question. Bien sûr, nous allons reprendre les SMS qui n'ont pas pu être posés ce matin la semaine prochaine. Patience, vous aurez toutes les réponses à vos questions. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.
Bon week-end.
7h, 8h, les jardinières.